Et bonjour à tous. Personne n'en doutait véritablement, mais c'est désormais officiel. Paul Kagame remporte l'élection présidentielle au Rwanda. Il en est le chef de l'État depuis maintenant 23 ans. Il est réélu avec plus de 98% des voix. Nous entendrons la correspondance de Stéphanie Aglietti sur place à Kigali. Le Chili envoie de dépénaliser partiellement l'IVG. Le Parlement a adopté un projet de loi en ce sens. Marina Capitaine nous en dira plus sur ce texte qui n'accepte l'avortement que dans certains cas extrêmement précis. La France n'est à ce jour pas concerné par ces œufs contaminés à l'insecticide. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce scandale a touché cette semaine en particulier l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Nous y reviendrons dans cette édition avec Laxmi Lotha qui est notre correspondante à Bruxelles. Le suspense n'était pas hitchcockien à proprement parler, le résultat n'est pas une franche surprise, mais ça y est, il est donc tombé. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a été réélu pour un troisième mandat avec un score absolument écrasant. Après dépouillement de 80% des bulletins, il obtient 98,66% des voix. Chronique d'une victoire annoncée avec notre correspondante sur place à Kigali, Stéphanie Aglietti.
Au Rwanda, personne ne doutait d'une réélection de Paul Kagame. Pas même l'intéressé qui a répété tout au long de la campagne électorale que cette élection n'était qu'une formalité. Paul Kagame a été élu président pour la première fois en 2003, puis réélu en 2010 avec à chaque fois plus de 90% des voix. C'est à la faveur d'une réforme de la Constitution adoptée par 98% des Rwandais en 2015 qu'il a pu briguer ce troisième mandat. Visionnaire pour les uns, despote pour les autres, Paul Kagame, âgé de 59 ans, est un personnage clivant. Il est crédité d'avoir ramené la stabilité dans ce pays exsangue et traumatisé après le génocide en 1994. Ses partisans mettent aussi à son actif la réduction de la corruption et l'incontestable réussite économique du petit pays des Grands Lacs qui, depuis 20 ans, affiche un taux de croissance moyen de 7%. Revers de la médaille, opposants au régime et observateurs dénoncent l'absence de liberté d'expression dans le pays et son manque d'ouverture politique. Pour cette présidentielle, seuls deux petits candidats d'opposition ont été autorisés par la commission électorale à participer au scrutin. Tous deux sont très peu connus des Rwandais et sont passés quasiment inaperçus lors d'une campagne électorale phagocytée par le parti au pouvoir. Le FPR contrôle en effet d'une main de fer depuis 23 ans les sphères politiques, sociales et économiques. De nombreux observateurs qualifient d'ailleurs cette opposition de façade à destination de la communauté internationale.
Au Sénégal, on l'apprend à l'instant, la coalition au pouvoir du président Macky Sall conserve une solide majorité au Parlement, 125 sièges de députés sur 165. Ce sont des résultats officiels communiqués par l'agence de presse sénégalaise APS. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 18h. Aux États-Unis, c'est une première dans l'enquête qui vise Donald Trump et ses liens suspects avec la Russie. Des membres de l'équipe du procureur spécial Robert Mueller demandent des documents précis à la Maison-Blanche. C'est ce qu'affirme le New York Times. Les documents en question concernent Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité du président américain. C'est lui, on le rappelle, qui est au centre des soupçons sur une éventuelle implication russe dans la campagne présidentielle de 2016. De manière générale, l'enquête monte en puissance. Ces derniers jours, plusieurs journaux américains affirment que le procureur Mueller a constitué un grand jury qui pourrait déboucher sur des poursuites pénales. On apprend que ce matin, au Brésil, des milliers de militaires et de policiers ont lancé des opérations contre des gangs dans quatre favelas de Rio de Janeiro. Cette opération intervient après une multiplication de vols de cargaisons de camions de transport de marchandises. Quelque 10 000 hommes sont mobilisés dans la ville depuis une semaine pour lutter contre la flambée de la violence. Se dirige-t-on vers une autorisation de l'IVG au Chili? Alors on n'y est pas encore, mais cette semaine, le Parlement a adopté un projet de loi qui dépénalise l'avortement thérapeutique. Une dépénalisation qui reste très partielle. Les précisions de Marina Capitaine.
Seules les femmes tombées enceintes à la suite d'un viol, celles dont la vie est en danger ou celles dont le fœtus est jugé non viable auront le droit d'avorter. Un texte auquel tient énormément la présidente chilienne Michelle Bachelet puisqu'elle en est à l'origine. Mais avant de pouvoir le promulguer, une dernière étape doit être franchie. Celle du tribunal constitutionnel saisi par les parlementaires de l'opposition conservatrice. Ils estiment que cette loi porte atteinte au principe du droit à la vie qui figure dans la constitution chilienne. Cela fait plus de 20 ans que l'avortement est totalement interdit au Chili. Peu avant la fin de sa dictature, le général Pinochet l'avait intégralement pénalisé avec le soutien de l'Église catholique et celui des milieux conservateurs.
Et si le tribunal constitutionnel valide donc cette loi, le Chili pourrait ainsi quitter la liste des 28 pays dans lesquels l'IVG est encore totalement interdit. À ce jour, la France n'est pas dans la liste des pays concernés par ces œufs contaminés et le ministère n'a pas non plus à ce stade été informé de la distribution du produit incriminé ou de produits de volailles contaminés sur notre territoire. Voilà ce qu'affirme donc un communiqué du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de ce matin. Ce communiqué fait référence donc à ce scandale des œufs néerlandais contaminés à l'insecticide. Plusieurs pays européens sont touchés, la Suède, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne. Tous ont retiré des supermarchés plusieurs millions de suspects. À Bruxelles, Lakshmi Lota.
À l'origine de l'affaire, des éleveurs néerlandais qui ont fait appel à Chickfriend, une société spécialisée dans l'éradication du pou rouge, un parasite néfaste pour les poules. Elle a utilisé un produit interdit dans le traitement des animaux destinés à l'alimentation. Selon l'Agence belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire, les concentrations en insecticides restent en dessous des seuils prévus par la réglementation européenne et sont donc inoffensives pour la santé des consommateurs. En grande quantité, le fipronil est considéré comme modérément toxique pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé. La Commission européenne a déclaré suivre l'affaire de très près. La situation est sous contrôle, a assuré une porte-parole. Le scandale pourrait encore prendre de l'ampleur si d'autres produits transformés contiennent des œufs contaminés. En Allemagne, des salades industrielles avec des œufs ou de la mayonnaise ont été rappelées par leurs fabricants hier soir.
L'Allemagne qui d'ailleurs hausse le ton sur le sujet et qui demande aux Belges et aux Néerlandais de faire la lumière sur ce que Berlin appelle un frelatage criminel à l'insecticide. En France et dans toute l'Union européenne, il n'est plus possible depuis hier de trouver des implants contraceptifs et sûrs. C'est l'UE qui a suspendu pour 3 mois la commercialisation de ces petits implants. Selon Bruxelles, il faut que toutes les questions en suspens sur ce produit trouvent une réponse. Effectivement, ce produit est régulièrement contesté en raison d'effets indésirables. L'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, préconise d'ailleurs, par mesure de précaution, de ne plus l'implanter. Écoutons maître Charles-Joseph Houdin, il prépare le dépôt en septembre d'une action de groupe d'au moins 450 patientes contre le laboratoire Bayer qui fabrique ces implants.
On peut se réjouir de cette suspension provisoire qui conduit de facto à un retrait du dispositif Essure du marché français, certes pour quelques mois, mais à un retrait quand même. Cette mesure s'inscrit, je le rappelle, dans la continuité d'autres pays européens où le produit a été retiré du marché. Des doutes importants existent sur la pertinence de ce dispositif. Le laboratoire lui-même admet des effets indésirables extrêmement graves dans un certain nombre de cas. Et tous ces éléments sont concordants pour venir dire qu'il faut supprimer à titre définitif ce dispositif du marché, qui est dangereux, qui n'est pas très utile, qui est très coûteux, et c'est l'objet des procédures judiciaires qui sont engagées par l'association Résist que je représente.
De son côté, Bayer se dit en désaccord profond avec cette décision de l'UE, donc de suspendre la commercialisation de ses implants. Le labo assure que cette décision n'est pas liée à des problèmes de sécurité ou de qualité du produit. La ville de Paris est en proie à un gang de voleurs d'œuvres de street art. Les voleurs se font passer pour des employés municipaux et ils arrachent des fresques du célèbre artiste Invader. Alors, ces fresques sont bien connues. Elles sont réalisées grâce à de petites mosaïques ou carrelages posés sur des murs. La ville de Paris va déposer plainte. Denis Souillard.
Oui, la ville de Paris a pu recueillir divers témoignages et tous décrivent la même chose. Deux hommes avec un gilet jaune sur le dos, équipés d'une échelle et de plots orange autour d'eux. Pierre Roper, un amateur de street art, s'est retrouvé nez à nez avec ces vandales mercredi après-midi.
Ça m'intrigue un peu, donc je m'approche, je regarde, je commence à prendre une photo à tout hasard. Et là, il y a un des deux hommes qui vient vers moi et qui m'explique qu'en fait, ils sont envoyé par la mairie de Paris, que l'artiste Invader a été condamné après avoir tenté de poser une de ses œuvres sur Notre-Dame de Paris, et donc que la mairie de Paris a décidé de faire retirer toutes ses œuvres.
Et c'est bien sûr totalement faux, l'artiste Invader lui-même a démenti. Les photos des voleurs font le tour des réseaux sociaux et d'autres personnes les ont en fait déjà rencontrées dans Paris. Il s'avère que ces vols de fresques sont fréquents, surtout en été, comme l'explique David, un ancien policier, un fan absolu des fresques d'Invader.
Il y a deux groupes, je pense. pense, un groupe de voleurs professionnels qui travaillent souvent sur commande et qui travaillent beaucoup avec l'étranger. Et il y a un ou deux groupes plus locaux qui, je pense, veulent plus les écouler par un marché noir.
Et de fait, les pièces volées se retrouvent très fréquemment sur les plateformes eBay ou Le Bon Coin aux alentours d'une cinquantaine d'euros.
Attention à quelques averses orageuses dans l'après-midi au sud de l'Aquitaine, du Massif central jusqu'au Jura également. Notamment, les températures de l'après-midi partent de 18 degrés près de la Manche. Elles montent jusqu'à 41 degrés en PACA et en Corse. 15 départements du sud-est restent en vigilance orange pour canicule. Journal préparé avec François-Charles Domergue. Il a été réalisé à la technique par Victoria Asper.